Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume Debat.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes maître de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès, l'auteur d'un très joli petit livre aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection Cette année-là à Toulouse sur 1794, Madame de Cassan qui passe sur l'échafaud à la guillotine. Alors on va continuer dans cette période difficile avec l'évocation de la terreur et donc de son empreinte à Toulouse en ces années 93-94 de la fin du XVIIIe siècle.
Oui, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que quelque chose qualifie la terreur à Toulouse? Est-ce qu'il y a des particularités comment ça se passe?
Alors, oui, absolument, il y a des particularités toulousaines qui font que la terreur à Toulouse n'est pas superposable à ce qu'on entend par la terreur de manière générale. Voilà. D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que la terreur à Toulouse, mais c'est vrai dans toutes les autres villes et dans tous les autres départements, doit se comprendre comme une imbrication entre des réalités locales et nationales. Donc on a l'évolution de la législation à Paris, les événements révolutionnaires que tout le monde connaît, hein, cet emballement de la révolution, cette répression qui augmente, mais tout cela dans les départements entre en écho avec des attentes ou des résistances. Et donc il faut toujours jongler entre le contexte local et le contexte national.
Et oui, donc à Toulouse, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont dues au climat local.
Absolument.
La vie dans une grande ville de province.
Oui, absolument. Alors le premier de ces facteurs et de ces caractéristiques, c'est le renforcement progressif des tensions dans la ville suite en 1793 suite à la déclaration de guerre avec l'Espagne et Portugal. Ça s'appelle la guerre du Roussillon et Toulouse devient une base arrière du conflit. Donc ça fait naître une peur dans la ville, d'autant qu'au début, les armées révolutionnaires sont reculent, hein, elles perdent les batailles face aux Espagnols et aux Portugais. Et donc la crainte, c'est de voir la ville assiégée. Et donc on se met à avoir des espions partout, et ça crée un climat, on pourrait dire, hein, de véritable paranoïa.
Voilà. Et donc, chasse à l'espion, j'imagine.
Absolument, on cherche et on voit des espions, et on en voit surtout parmi les groupes que l'on considère hostiles à la Révolution, et d'abord le clergé, et notamment le clergé réfractaire. Donc cette paranoïa se double de ce qu'on appelle les insurrections fédéralistes. Alors en gros, c'est les mouvements de réaction face à l'élimination des Girondins à Paris au printemps 93. Alors à Toulouse, il n'y a pas de grande insurrection comme à Toulon, à Lyon ou à Marseille. Mais on a des autorités qui affirment leur adhésion à la Convention très tardivement. Donc ça fait craindre, dans une ville déjà soumise à de fortes tensions avec la guerre, l'idée qu'on pourrait avoir de nouveaux éléments perturbateurs, une nouvelle scission. Voilà. Et donc ça renforce les tensions. Et dans ce contexte, eh bien, la loi des suspects va permettre d'emprisonner les suspects ou ceux que l'on suspecte d'être des agents de l'étranger. Donc on voit comment on a des réalités locales qui viennent être renforcées par des évolutions parisiennes et les deux créent la terreur à Toulouse.
Oui, avec des milieux quand même qui sont très ciblés là du coup.
Absolument, hein, les milieux les plus ciblés d'abord par les arrestations, ce sont donc le clergé particulièrement réfractaire, mais aussi les femmes, hein, les anciennes religieuses, et le milieu parlementaire, qui est également extrêmement ciblé par les mesures. Au plus fort de la terreur, on estime qu'il y a un peu plus d'un millier de personnes, hein, dans les prisons à Toulouse.
Donc on a des différences par rapport à ce qu'on appelle la terreur en général et ce qui s'est passé à Toulouse. On n'est pas dans les mêmes...
La
même situation.
Non, on n'est pas dans la même situation ensuite d'un point de vue chronologique, puisqu'on considère la fin de la terreur avec la mort de Robespierre à l'été 1794. En réalité, à Toulouse, mais c'est vrai dans d'autres villes de province, ça s'arrête un peu avant, parce qu'au printemps 1794, la guerre s'améliore. Les armées révolutionnaires sont victorieuses contre les Espagnols. Donc d'un coup, la pression retombe. Et au même moment, la Convention nationale adopte une série de décrets qui ordonnent que désormais tous les prévenus de contre-révolution soient jugés à Paris. Donc la violence répressive quitte Toulouse à un moment où la tension redescend. Donc on peut considérer qu'à Toulouse, la terreur s'achève au printemps 1794, alors qu'à Paris, c'est là où elle se renforce à l'été 1794.
Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes ?
Alors, c'est compliqué de faire un bilan humain. En fait, on peut considérer qu'il y a trois grandes catégories de victimes. D'abord, ceux qui ont été jugés par le tribunal criminel qui juge de façon révolutionnaire. Mmh. Donc ça, c'est entre janvier 1794 et le printemps 94, hein, quand les condamnés sont ensuite envoyés à Paris. Là, on a des chiffres très précis. Hein, 31 personnes sont condamnées à mort pour 30 exécutés. Parce qu'il y a une personne qui s'est évadée. Alors, en tout, on sait que 50% des accusés sont acquittés. Donc, c'est 1 sur 2.
Ah oui.
C'est des chiffres qui sont assez proches. À Paris, c'est 1 sur 2 aussi. Mm-hmm. En tout cas, jusqu'à l'été 94. Donc, on a un tribunal qui est relativement modéré. Ce qu'on observe, en revanche, c'est que sur ces 50% de personnes condamnées, 70 le sont à mort. Donc, le tribunal acquitte autant qu'il condamne. Mais quand il condamne, oui, il condamne plutôt à mort. Donc, on a 31 personnes.
Et quels sont les autres types de condamnations?
Alors, à ça, il faut rajouter les gens qui ont été condamnés pour des faits liés à la Révolution, mais pas par le tribunal qui juge révolutionnairement. Donc, c'est un peu avant. Ils sont 14. On trouve des cas très typiques, des gens qui sont opposés au recrutement ou un boulanger suspecté de faire du mauvais pain, voilà, d'empoisonner les bons citoyens. Oui. Et puis, à cela, il faut rajouter 55 membres du Parlement qui sont jugés et exécutés à Paris.
Ah oui.
Et 7 administrateurs considérés comme fédéralistes qui sont aussi exécutés à Paris. Donc en tout, ça fait 106 personnes, mais ce qui est important, dont 62 hors de Toulouse. Voilà, 106 Toulousains condamnés à mort pendant la Terreur, mais 62 hors de Toulouse. On est très loin des chiffres d'autres villes. Hein. À titre de comparaison, c'est 300 personnes à Bordeaux, c'est 1800 guillotinés fusillés à Lyon.
Ah oui. Ah oui, c'est considérable.
C'est le bilan de Fouché à Lyon, ça.
Entre autres.
Pas que.
Oui, donc on peut. Je retiens de ce que vous dites que, non pas qu'à Toulouse, on a été particulièrement indulgent, mais que, voilà, il y a eu peut-être le poids, je sais pas, d'une culture ici, d'un comportement. Comment ça s'explique
Alors,
D'avoir été moins cruel, finalement.
Alors, moi, je proposerais une explication inverse, qui est en fait que les chiffres que l'on trouve à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulon, qui sont des chiffres très élevés, et évidemment dans l'Ouest, dans le cadre des guerres de Vendée, ces chiffres très élevés, en fait, ce sont eux qui sont finalement le fruit de circonstances exceptionnelles et en réalité, à Toulouse, ben en fait, on est plutôt dans la moyenne de ce qu'on retrouve dans les autres départements.
Oui.
Donc, à Toulouse, on a une ville qui est considérée comme une ville rouge pendant la Révolution. En réalité, on a une minorité de jacobins, c'est-à-dire de patriotes radicaux très actifs, extrêmement actifs, très bien organisés, qui ont quand même des relais à Paris, mais qui, au-delà de la période de la Terreur, se heurtent à une opinion publique qui est quand même largement modérée. Et d'autant que toutes les campagnes aux alentours de Toulouse, les espaces ruraux, sont, eux, beaucoup plus modérés, notamment à l'égard de la politique religieuse de la Révolution. Donc, en fait, Toulouse est finalement assez représentative de villes dans lesquelles il n'y a pas eu d'événements qui déclenchent une répression très forte. Voilà. Mais sinon, là où il y a beaucoup de condamnés, c'est plutôt exceptionnel, finalement.
Et deux questions. Dans le nombre de Toulousains victimes de la répression, le rapport homme-femme est de combien?
Alors, il est de pas beaucoup, puisque donc, sur les personnes condamnées par le tribunal révolutionnaire, il n'y a qu'une femme.
Madame de Cassan,
exactement. Sur ceux qui sont exécutés à Paris, ce ne sont que des hommes, hein, les 55 parlementaires et 7 fédéralistes. Et sur les 14 qui précèdent, il y a une femme, je crois, une ou deux femmes. Donc, il y a très, très peu de femmes.
Ouais. Et deuxième question, les députés qui représentent la Haute-Garonne à la Convention sont de quelle appartenance la Convention, elle est divisée en trois, la montagne, les jacobins et la plaine, voilà, le marais, mais les députés de la Haute-Garonne sont répartis comment?
Alors, les députés de la Haute-Garonne sont sont des révolutionnaires modérés, on va dire ça comme ça. À titre d'exemple, ils ne font pas partie de ceux qui votent pour la mort de Louis XVI sans condition, notamment. Donc, ce n'est pas partie des députés les plus radicaux.
Est-ce qu'on a évoqué les conditions et le déploiement de tous les actes liés à cette période de la Terreur? Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la personnalisation, finalement?
Ah oui, absolument. Donc, on a d'abord le club des Jacobins de la ville, hein, qui est très, très actif. Si on rentre ensuite un peu dans le détail, on a des figures comme ça qu'on considère vraiment comme les rouages de la terreur à l'échelle toulousaine. D'abord, c'est un représentant en mission, c'est-à-dire un député qui est envoyé dans les départements pour faire appliquer les lois de la Révolution. Alors, il y en a plusieurs à Toulouse, mais il y en a un qui est célèbre, qui s'appelle Darty Goët, qui était en mission dans le Gers et dans l'Haute-Garonne, qui est originaire des Landes, et qui se signale par un sentiment hostile au clergé très marqué, et par la volonté d'appliquer avec beaucoup de dureté les lois, les directives de la Révolution. C'est notamment lui qui, ce qu'on appelle, épure les autorités, c'est-à-dire qu'au sein de la municipalité, du département et de toutes les autres administrations, il écarte les individus trop modérés et il les remplace par des individus jugés plus patriotes. La troisième figure, c'est peut-être Huguenie, c'est le président du tribunal qui juge de façon révolutionnaire, donc ça lui accorde une stature importante pendant la terreur, mais Après la terreur, il est dénoncé pour être un peu un juge rouge, mais rouge au sens de souillé des condamnés. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a, avant la Révolution, une grande carrière de magistrat. Voilà, c'est un juge dans différents tribunaux royaux. Pas au Parlement, mais dans des tribunaux royaux.
Donc, on a beaucoup parlé des individus et de leur sort funeste, ce qui est bien. Mais il y a eu quand même des attaques au patrimoine municipal. Et je voudrais en citer une, j'aimerais que vous m'en parliez, qui est l'autodafé dans lequel on a détruit une majeure partie des annales de la ville, qui était vraiment l'histoire de la ville.
Oui, totalement. C'est une des destructions qui font partie prenante de ce qu'on pourrait appeler la politique mémorielle finalement de la Révolution, c'est-à-dire à la fois détruire pour faire table rase du passé et conserver les documents liés à la Révolution. Et donc ces destructions, elles rentrent dans une grande famille de destructions. Ça peut être renommer les lieux, renommer les places et les rues, ça va être transformer les lieux religieux en temples de la raison, détruire des statues, biffer, supprimer toutes les marques du pouvoir royal ou de l'Ancien Régime. Et à ce titre, la destruction des annales rentre dans cette catégorie.
Oui, qui sont la traduction vraiment de la vie toulousaine.
Eh bien, merci Monsieur Debat, on se retrouvera probablement pour d'autres chroniques. Merci Aline, bonne semaine à tous.
Merci à tous,
merci
vous deux.
Merci beaucoup.